Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je suis ravie qu'on ait du temps pour parler de Nous, qui est votre roman paru fin d'année dernière. Nous, c'est un roman qui est assez foisonnant, qui est extrêmement dense. Alors, on va avoir l'occasion de parler de plein de choses. Mais je crois que j'avais envie de commencer par dire que, au-delà de l'histoire, du plaisir que j'ai eu à le lire, à le découvrir et à me laisser emporter, eh bien, malgré ce scénario qui m'a transporté, eh bien, régulièrement, je me suis arrêtée pour me dire waouh, quelle phrase, quel rythme, quel bon mot. Et voilà, et j'avais envie de dire, alors on le sait, hein, c'est pas une grande surprise, on vous a déjà lu, mais à chaque lecture de vos romans, c'est un plaisir renouvelé de voir que vous avez une maîtrise de l'écriture qui est assez extraordinaire. Donc c'était mon premier mot.
Wow. Merci.
Vous serez d'accord avec moi. Donc Nous, c'est une dystopie. On va l'appeler comme ça. On aura peut-être l'occasion de parler, on va dire peut-être une dystopie vintage un petit peu, parce que nous, les enfants des années 80, on s'est reconnus là-dedans. J'ai entendu que vous aviez dit que lorsque votre éditeur a reçu ce texte, il avait dit que c'était un excellent petit pont entre La Passe Miroir et Ici et seulement Ici, qui était paru l'année dernière. Parce que nous étions passés de la fantasy à un roman réaliste magique, et Nous est donc une dystopie. Et donc je me demandais, quand vous vient l'idée initiale, si vous vous posez la question du genre que vous allez lui donner et quelle importance le genre peut avoir quand on écrit.
Alors, absolument jamais. Voilà, ça c'est la réponse courte. Et maintenant, si je développe un petit peu, lorsque j'ai écrit La Passe Miroir, je ne savais pas que c'était de la fantasy. C'est parce que j'ai une amie qui m'a dit, tu sais que c'est de la fantasy. J'ai fait, c'est quoi la fantasy? Et elle a dû m'expliquer. Et puis, après, j'ai appris qu'il y avait des catégories de fantasy. Donc, voilà, là, j'écris tel que ça me vient, je ne me pose pas trop la question. Et pour Nous, pendant longtemps, je ne savais pas moi-même sur quoi je naviguais, parce que la toute première version, celle qui... C'est pas la version finale. Moi-même, je me demandais est-ce que ce serait pas notre monde dans le futur, par exemple, l'humanité qui aurait pu muter. J'ai flotté pendant un temps, donc j'ai dit peut-être que c'est juste un roman futuriste. Mais finalement, non, j'ai fini par trancher et me dire non, je veux vraiment que ce soit. C'est un univers qui ressemble beaucoup au nôtre, mais ce n'est pas le nôtre. Donc là, c'est vraiment de la fantaisie au sens strict. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on parle fantaisie, souvent, on pense médiéval fantaisie. Pour La Passe Miroir, c'était plutôt Belle Époque. Et là, effectivement, bah, je me suis plutôt dit que j'avais une envie d'une petite coloration vintage. Donc, des années 80, et pour ça, il n'y a pas de mystère, c'est mon enfance. Voilà, c'est un peu la Madeleine de Proust. Et j'avais très, très envie de baladeur, de retrouver, en fait. Mais c'est, en fait, j'ai des souvenirs comme ça qui me sont remontés. Je me suis dit, mais c'est vrai, les baladeurs, je me rappelle, avec ces casques, avec la mousse qui faisait mal aux oreilles au bout d'un moment parce que ça s'usait, ces cassettes qu'il fallait changer de face, qu'il fallait rembobiner, enfin, tous ces petits gestes, maintenant que je les avais complètement oubliés. Mais au fur et à mesure que je me suis remise dans la peau des personnages, ça m'est revenu, quoi. Donc, généralement, lorsque j'écris, c'est d'abord un acte très spontané. Et c'est souvent après, une fois que je remets le texte à l'éditeur et qu'on commence à parler du texte, qu'on se dit, mais c'est quoi les étiquettes qu'on va poser dessus?
Si je reviens un petit peu sur Ici et seulement Ici, vous évoquez un collège. C'est pas tous les collèges, c'est celui-ci, et vous l'intitulez Ici avec un I majuscule. Et cette fois-ci, c'est Nous avec un N majuscule qui représente cette société, ce grand tout en fait qui érige. Bah, c'est le monde, hein, le monde que vous avez bâti, c'est le monde du Nous. Donc vous avez pris deux noms communs, Ici et Nous, auxquels vous avez mis une grande majuscule. Quel est le pouvoir des mots, finalement, derrière tout ça?
Ah, le pouvoir de la majuscule.
Eh oui, parce que quand même, ça lui en donne.
Bah, comment transformer un mot du quotidien, qui pourrait paraître ordinaire, en un absolu? À chaque fois, c'était le but. Pour Ici, le lieu devient absolu. D'ailleurs, c'est pour ça que ça pourrait être n'importe quel collège, finalement, dans l'absolu. Ce n'est pas un collège en particulier. Je fais attention à ce que ce soit très décontextualisé. Et pour nous, bah voilà, pareil, c'est le nous avec la majuscule. C'est une forme d'absolu, en tout cas pour cette humanité. C'est pratiquement une divinité.
On va y revenir.
On va y revenir.
Sur ce mot divinité, on va y revenir. Alors, j'imagine qu'on a déjà un certain nombre de lecteurs qui ont déjà lu, de personnes présentes qui ont déjà lu nous, mais on se l'est dit tout à l'heure, on va se heurter assez vite au fait de ne pas raconter trop. Mais quand même, pour ceux qui ne l'ont pas du tout lu, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un peu de quoi parle nous ?
Le fameux pitch.
On sache au moins de quoi on parle.
Bah, surtout que la quatrième de couverture n'est pas extrêmement explicite. Oui, alors. Je dirais bien pour sonder combien de personnes ont lu, mais je pense que si vous levez les bras, je ne vous verrai pas.
Oh, si on va distinguer.
Ah oui, vous avez lu nous ? Ah oui, quand même. Ah oui, bon. Bon. Je vais quand même pitcher pour quelques personnes qui n'auraient pas lu. Donc, comme je disais, nous, c'est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Dans les années 80, mais ce n'est pas le nôtre. C'est une humanité qui a ceci de particulier, que chaque être humain naît avec en lui une force irrépressible qui le pousse à faire le bien. Et c'est ce que j'ai appelé les instincts avec la majuscule, la fameuse majuscule. Par exemple, le protecteur ne pourra pas s'empêcher de protéger quiconque sera en danger. Le nourricier ne pourra pas faire autrement que donner à manger à quiconque aura faim, etc. Il y a des catégories d'instincts. Et tout autour de ces catégories, c'est construite une bureaucratie instinctive, un système où plus on sauve de vie, plus on s'élève dans la hiérarchie. Et dans ce monde, il y a le personnage de Goliath, qui est un protecteur, qui a ceci de particulier qu'il a déjà perdu ses deux bras, en protégeant, mais ce n'est pas un problème pour lui déjà, bon, parce qu'il y a des prothèses. C'est un monde où il y a des prothèses qui sont reliées aux nerfs, qui font que voilà, il a quand même deux bras prothétiques fonctionnels. Et puis, il n'est pas du tout découragé. Hein. Lui, il est tellement identifié à son rôle, il veut absolument devenir un vertueux. Pour ça, il faut qu'il sauve 11 vies. Il en a déjà sauvé 10. Il lui reste un mois pour sauver sa 11e vie. Et ça tombe bien, parce que dans le quartier des écoles où il étudie, des élèves disparaissent mystérieusement. Et il pense que ça va être là, pour lui, là, l'occasion de sauver cette vie manquante. Et toujours dans le quartier des écoles, à l'école de la confidence, il y a Claire. Alors, les confidents, ce sont les oreilles du nous. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'entendre, d'écouter quiconque parle. Donc, ils ont toujours en permanence un casque sur les oreilles de la musique, parce que sinon, ils cesseraient de s'appartenir dès qu'ils entendent une phrase. Et Claire, donc, qui étudie à l'école de la confidence, a aussi remarqué que des élèves disparaissaient. Et avec Goliath, ils vont former un partenariat.
Et mener une petite enquête.
Et mener une enquête.
Parce qu'en fait, on aurait pu le dire, s'il y a quand même un fond, un poil policier... Aussi,
et il y a une petite touche. J'aime bien quand il y a des enquêtes.
Donc l'instinct, avec un I majuscule, donc c'est un tout, hein, c'est l'essence même du roman. Très vite, on nous le dit, il n'y a pas de bas instinct. Enfin, quand même, selon son instinct, la vie est plus ou moins belle. Citons ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de manger les cafards pour nous les sortir des sur les pattes. Déjà, premièrement, comment avez-vous eu cette idée ? Et puis surtout, est-ce que, avant d'écrire, vous avez dressé une liste des instincts ?
Alors, l'idée. C'est un processus extrêmement mystérieux et je me suis beaucoup penchée sur la question, parce que je peux certifier que, dans mon cas, en tout cas, ce n'est pas un processus mental. Si je me pose pour me dire, il me faut une idée de roman, je peux vous assurer que rien ne va venir. C'est une certitude mathématique avec moi. Par contre, quand je ne m'y attends pas du tout, là, ça me tombe dessus. Alors, j'étais en train d'écrire le troisième tome de La Passe Miroir, donc c'est pour dire à quel point l'idée remonte, et je venais de faire une séance de dédicace à Lille, et j'ai des lecteurs qui m'ont demandé si ça m'arrivait de penser à autre chose que La Passe Miroir, d'avoir d'autres projets. J'ai fait non, mais jamais de la vie. J'ai dit non, je vis Passe Miroir, je suis la Passe Miroir, je respire la Passe Miroir. Et un point que c'est vrai que j'étais tellement identifiée que ça grisait déjà un peu intérieurement, parce que je commençais à me dire, je m'approche un petit peu de la fin. Mais voilà, la réponse immédiate et spontanée, ça avait été non. Je pense que j'ai un énorme esprit de contradiction envers moi-même, car le lendemain matin, alors que je préparais mon cacao au micro-ondes, Bon, je dois vraiment préciser pour dire à quel point les conditions, parce que ce sont vraiment les mêmes conditions que pour la passe miroir lorsque j'ai eu l'idée, c'est que j'étais extrêmement détendue. Bon, en fait, j'étais complètement pétée parce que vraiment, c'était le lendemain de la séance de dédicace et j'étais explosée. J'étais rentrée tard chez moi, donc encéphalogramme plat. J'étais juste en mode automatique, Nesquik. Et à l'instant précis où le micro-ondes a fait ding, je fais. Et si chaque être humain naissait avec en lui le besoin irrépressible de faire le bien. Ouais, des petits déjeuners comme ça, j'en ai pas tous les jours. Et en fait, à partir de là, ça fait exactement comme pour la passe miroir, un effet pop-corn. C'est qu'en l'espace de quelques instants, j'ai fait « Ah oui, du coup, ça, j'appellerais ça les instincts avec un I majuscule. Il y aurait différentes catégories d'instincts. » J'ai peut-être pas parlé tout de suite de la bureaucratie instinctive, mais j'ai très vite vu ce système qui allait se construire et ces vies qu'il fallait sauver. Enfin, vraiment, en très très peu de temps, le monde s'est construit et les personnages sont apparus. Sauf que là, c'était très embêté parce que j'étais dans l'écriture du troisième tome de La Place Miroir. Et je me suis dit, oula, j'ai un roman là qui est en train de pousser comme un champignon et je peux pas l'écrire. Donc, j'ai tout noté, tout ce qui m'est venu. Je sais que j'ai passé vraiment des heures et des heures à ça, tout ce qui est venu, et j'ai mis dans un fichier que j'ai refermé. J'ai dit, je le rouvrirai lorsque j'aurai terminé d'écrire La Place Miroir. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que il y a ça en commun avec la passion rare, c'est que j'étais pas du tout là-dessus au moment où l'idée m'est venue. C'est toujours, ça vient par derrière comme un coup en traître. Mais bon, c'est plutôt, c'est très jouissif en fait. Hein, lorsque l'idée est là, il se passe même organiquement, c'est extrêmement intense quoi. Mais l'effort mental ne vient que dans un deuxième temps, quand il faut commencer à construire l'histoire. C'était quoi la deuxième partie de la question ?
C'était la liste des instincts.
Ah, la liste des instincts. Ah oui, non, alors non, ça, c'est ce que j'ai fait en dernier. C'est-à-dire que d'abord, parce que je ne suis pas patiente, moi, j'ai très vite vu qu'il y aurait un protecteur, qu'il y aurait une confidente. J'avais vu les instincts principaux, je les ai vite vus, mais je n'ai pas du tout eu la patience de faire une liste, de bien classifier. C'est lorsque on a terminé d'écrire le roman avec Gallimard Jeunesse, je me demande si c'est pas lorsqu'il a fallu représenter les instincts sur la couverture, parce que j'arrête pas de dire que les personnages ont une marque sur le visage, parce qu'ils portent vraiment littéralement la marque de leur instinct sur le visage, sauf que je décris jamais les marques, hein, je me suis pas foulée, hein, moi je me suis dit, oh, ils se débrouilleront avec ça, les lecteurs feront l'imagination, mais bon, Gallimard a quand même voulu représenter des symboles, et du coup ils m'ont dit c'était si j'avais une liste des catégories d'instincts, parce que j'arrête pas de parler aussi de catégories, de sous-catégories, de sous-sous-catégories, sauf que je me suis dit, ce serait peut-être temps de la faire, du coup. Donc, et c'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs qu'il y avait quelques petites incohérences, des choses qui ne collaient pas. Donc, c'est bien parce qu'on a pu rectifier un peu au dernier moment. Il y a eu des choses qui étaient quand même un peu approximatives.
Et, ici, c'est venu par derrière aussi ?
Ah, complètement. Par derrière, mais aussi par devant, parce que c'était juste en face de chez moi qu'il y avait une école. En fait, c'est quand j'ai déménagé et que je me suis retrouvée en face d'une école. Et c'est l'école qui a fait tout d'un coup tous les souvenirs d'enfance sont remontés. D'abord, je me suis rappelé des souvenirs d'école primaire, et là, c'était souvenirs dorés. Puis après, c'est juste que la mémoire a continué son chemin, et je me suis dit, ah oui, puis après, il y a eu le collège. Donc, mais voilà, à chaque fois, lorsque j'ai eu l'idée de ici et seulement ici, j'étais en train d'écrire nous. C'est pour ça d'ailleurs que nous est le trait d'union parfait entre la passe miroir et si seulement aussi, parce que je l'ai écrit entre les deux. C'est juste que je me suis interrompue en plein milieu parce qu'il y a le déménagement qui m'a sorti un peu de l'écriture du roman et que j'ai tout d'un coup ici seulement ici qui apparaît en plein milieu. Je me suis dit, mais c'est quoi ces romans qui poussent à l'intérieur alors que je suis en train d'écrire un roman? Ça c'est vrai que. Mais bon, comme là sur ici seulement ici, j'étais sur du petit texte, je me suis dit, bon, je me l'autorise. Et de toute façon, comme avec le déménagement, je n'arrive pas à me concentrer assez. Voilà, ce sera ma petite parenthèse écriture. Mais en fait, dès que j'ai terminé si seulement ici, j'ai dit, OK, maintenant, je reprends nous.
Alors, ces instincts, revenons-y. On n'a pas dit qu'il y a aussi une portée. À savoir qu'on a un instinct, chacun a son instinct, mais qu'il y a une distance en mètres ou en kilomètres, en fait, qui fait qu'on réagit à ceux qui nous entourent, donc les réparateurs de voitures, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de réparer les voitures, par exemple, s'ils ont un instinct à 1,5 km, ils peuvent sentir les voitures malades à 1,5 km. Donc ça change beaucoup de choses. Et donc ils sont irrépressibles, ils sont viscéraux. Et quand on les voit faire, en fait, ils donnent lieu à une forme d'extase au moment où ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser. Et en fait, derrière, il y a comme une petite descente, quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, parce que c'est fini. Et donc, en fait, ça fait un peu l'effet de la drogue.
Je parle d'overdose instinctive.
Voilà, d'overdose. Donc, c'est ça, vous l'aviez pensé immédiatement aussi comme...
Il y a un effet, effectivement, le corps est hyper stimulé à un moment donné, puis après, il y a effectivement la descente qui est difficile. Donc, il y a cette sorte d'alignement. En fait, c'est comme si tout d'un coup, la vie prend un sens et qu'il y a un sentiment de complétude absolue, sauf que ça ne dure pas.
Alors, j'avais pensé, pour illustrer cet instinct, lire le prologue. Donc, comme ça, je ne révèle pas grand-chose. Et qui est un... Enfin, en tout cas, moi, quand je trouve que ce prologue est une... dit tout, en fait, si on lit bien. Si on le relit après l'avoir lu, c'est quand même assez
extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai écrit en dernier.
Ah, tout s'explique.
elle a pensé à tout.
Non.
Donc, je m'autorise de le lire parce que Christelle m'a donné l'autorisation et qu'a priori, elle préfère que je le fasse. Donc, ça commence par Marthe, et entre parenthèses, même si ce n'est pas important. Don du sang, une petite goutte de vous, un grand geste pour le nous. Vous donnez du sang, vous sauvez des vies. Il y a une astérisque à vie. Elle reste bloquée devant la publicité de l'arrêt de bus, sur l'astérisque surtout. Elle tourne la tête pour déchiffrer, en toutes petites lettres, le long du bord droit de l'affiche. À raison de 4 dons par an, durant une période de 3 ans consécutifs, un demi-point de vie vous sera attribué en vous rendant au compute de votre secteur. Oui, c'est bien ce qu'elle pensait. Pas de quoi embrasser la voie de la sanctification. Il y a toujours un astérisque. Le bus arrive. Elle attrape la boîte à outils posée à ses pieds et monte à bord en jetant des coups d'œil furtifs aux autres passagers. Le bus est bondé, ça l'oppresse. Elle fait abstraction de tous ses jeans déchirés, ses coupes mulées, ses bandanas fluo et ses bulles de chewing-gum pour se concentrer sur chaque visage, sur chaque marque. Il y a là 2 fabricants, un calculateur, une informatrice, des serviables de tout genre, dont une qui a 4 fois son âge et qui lui a immédiatement cédé sa place au fond du bus. Mais surtout, ouf, pas de réparateur. Cela, elle évite de s'asseoir à côté dans les transports. À chaque fois que l'un d'eux avise sa marque et découvre qu'elle est réparatrice aussi, ça ne manque jamais. Il se sent obligé de parler boulon, tout le trajet. Et s'il apprend, cerise sur le gâteau, qu'elle est encore en internat à l'école de la réparation, il se fait un devoir de lui raconter en détail son propre apprentissage. « Ah là là, toute ma jeunesse, ça, mademoiselle !» Ah, c'était le bon temps. Profite tant que tu peux. Elle croira entendre ses grands cousins. Profiter de quoi? Les cours ne lui appellent rien que son instinct ne sache déjà. Quant à son stage à la société de maintenance des ascenseurs dont elle sort, ça lui donne assez un aperçu assez étriquant de ce que sera le reste de sa destinée. Visser, dévisser, revisser. Elle s'appelle Marthe, au fait, mais ce n'est pas très important. Elle colle sa joue à la vitre du bus et observe le balai des piétons. Ce nettoyeur avec son balai brosse qui débarrasse le trottoir de tout ce qui pourrait faire trébucher les gens. Cette aimante en roller qui fait sa tournée de câlin à quiconque aurait le vague à l'âme. Ce gamin qui aide déjà sa maman à porter les courses. Il n'a pas encore reçu sa marque, mais ça ne saurait tarder. Il doit approcher des 11 ans. Dans leurs yeux, le même éclat, la même urgence, l'osmose du nous. Marthe lève le nez pour regarder le défilé cubique des immeubles. Du béton rouge, des châssis en aluminium, des toits terrasses, des tags partout. Ils se ressemblent tous. À une exception. Le gratte-ciel des Très-Hauts du Sud, là-bas, au loin. Étincelant et spectaculaire. Marthe le contemple depuis son petit siège de rien du tout, au fond du bus, écrasé par sa taille. Ils doivent avoir de fameux ascenseurs là-dedans, mais ils disposent de leur propre service de maintenance. Elle n'y est jamais allée. Elle n'est pas assez importante. Elle n'a sauvé aucune vie. Elle ne fait que visser, dévisser et revisser. Comme chaque trajet, après avoir quitté son stage où personne ne la retient, avant de retourner dans son école où personne ne l'attend, elle passe le temps en comptant les étages. Elle n'arrive jamais jusqu'au bout. Elle trouve quand même drôle d'appeler ça le gratte-ciel des Très-Hauts, car concrètement, à part les 4 séraphins du Sud qui résident entre le 80 et le 99e étage, il n'y a que des saints là-dedans. Une quantité de vertueux, pas mal d'anges, quelques archanges et une dizaine de trônes. Mais bon, saints ou Très-Hauts, ce ne sont que des noms au fond. des noms et des chiffres. Ils naissent avec leur instinct et meurent avec leur instinct, puis ils laissent leur place à d'autres qui naissent avec leur instinct et meurent avec leur instinct, comme le commun des mortels. À ceci près qu'ils sauvent des vies, beaucoup, beaucoup de vies. Des vies pas si importantes qui ne durent pas si longtemps. Marthe déglutit. Si quelqu'un dans ce bus savait à quoi elle songe, elle se ferait dénoncer sur le champ. Est-elle la seule à en avoir des pensées profanes? Les Très-Hauts et les Saints sont sacrés. Elle est sacrée, elle aussi. Ils sont tous sacrés, car ils ont tous un instinct, et aux yeux du nous, tous les instincts sont égaux. Marthe resserre les doigts autour de sa boîte à outils. Oh non, un vieux est monté dans le bus avec son chariot de course. Elle peut voir d'ici qu'une des roulettes est sur le point de se défaire. Elle a une portée instinctive de 180 cm. Pourvu que le vieux n'aille pas se mettre au fond du bus, près d'elle, là où elle ne pourra pas ignorer le dysfonctionnement. Et si, le vieux vient par là. À l'instant où il pénètre dans son champ instinctif, Marthe le ressent. L'envie pressante de vite, vite, vite donner un tour de clé à cette roulette. Elle déglutit une nouvelle fois. Techniquement, ce chariot n'est pas encore cassé. L'instinct n'a pas pris le dessus, mais ça lui fait comme des ruades dans le ventre. Répare, répare, répare! C'est délicieusement insoutenable. Le pire est là pour Marthe, dans cette joie anticipée d'assouvir bientôt son instinct, de presque espérer, oui, presque, que cette roulette se décroche une bonne fois pour toutes. Le vieux s'est assis sur la banquette d'en face, une main sur son chariot, l'air rêveur. Il porte un pins, un virtueux à la retraite. D'après sa marque, c'est un soigneur. Et toujours d'après sa marque, il a une toute petite portée instinctive. Marthe trouve ça déloyal. Elle vient de se coltiner 4 heures de cours et 4 heures de stage. Elle a mérité une trêve. Il réagirait comment, ce vieux docteur, si un type atteint d'un ulcère à l'estomac venait se coller contre lui? Si son instinct le poussait à lâcher ses courses, sa rêverie, tout ce qu'il était en train de faire pour se consacrer entièrement à la santé d'un parfait inconnu. Elle bondit de son siège. Son instinct lui envoyait une décharge chimique dans tout le corps. Malmenée par les chaos du bus, la roulette a fini par lâcher. « Répare !» Avant même que le vieux docteur ait pu comprendre pourquoi son chariot de course a soudain perdu l'équilibre, Marthe est déjà à genoux, clé de 13 en main, à revisser l'écrou. Chaque tour de clé est une extase. Elle se sent tellement pleine, tellement ici, tellement nous. « Merci, mademoiselle. » Marthe ne répond rien au vieux docteur, pas même à son sourire. La roulette est réparée, l'euphorie est retombée. « Merci de quoi ? C'est l'instinct qui a tout fait. » Elle ne souhaitait pas l'aider. Elle range sa boîte à outils et descend à son arrêt, au carrefour des écoles. Là, elle reste un moment sur le trottoir, au milieu du flot des passants, à fixer ses chaussures. Elle a honte. Marthe regagne le portail de l'école de la réparation. Depuis la grille, elle observe le flot des élèves et des professeurs, chacun avec à la main la même boîte à outils que la sienne, avec sur le visage la même marque que la sienne, à une portée près. Ils ont l'air si satisfaits, heureux de la tâche accomplie et heureux de toutes celles à venir. Peut-être que Marthe devrait juste arrêter d'attendre autre chose du nous que ce qu'elle est déjà. Retourner à l'internat, visser, suivre les cours, dévisser, terminer son stage, revisser, passer les examens de fin d'année et accepter le premier poste en usine qui lui sera proposé. Peut-être même, soyons fous, se faire quelques amis et reprendre contact avec ses grands cousins du secteur Est. Mais Marthe ne reprendra pas contact avec ses grands cousins. Marthe ne retournera ni en cours, ni à son stage. Marthe ne révisera plus les roulettes des vieux docteurs dans le bus. Parce que ce jour-là, au secteur sud, devant le portail de l'école de la réparation, c'est la dernière fois que Marthe et sa boîte à outils ont été vues. Et alors là, on a tout. Donc je comprends mieux, effectivement. Mais ce prologue, moi, je le trouve absolument formidable.
J'avais envie de vous le dire.
Un grand merci. Donc cet extrait, on le voit, est le premier personnage, Marthe, qui apparaît et donc nous montre en fait que ce livre est un roman choral. Comment avez-vous fait ce choix? Et surtout, comment on choisit la voix de chacun d'entre eux, sachant que c'est pareil, la voix, le rythme, le vocabulaire, tout est très différent. On a presque, au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de savoir le nom en haut de chapitre.
Comme vraiment nous, c'est écrit juste après la passe miroir, où là,
J'adore Ophélie, hein, c'est pas ça. Hein. Mais vraiment, j'ai écrit 4 tomes quasi exclusivement de son point de vue. Ça m'a fait du bien d'expérimenter un roman où là, il y avait une alternance de point de vue. Et là, ça avait d'autant plus de sens que c'est nous. Je voulais vraiment un jeu, plus un jeu, plus un jeu, pour faire une conjugaison. Donc, ça s'est fait vraiment tout seul. Là, je n'ai vraiment pas eu à réfléchir. Hein. C'était évident qu'il fallait que ce soit ainsi que ça se fasse. Marthe, c'était celle qui a ouvert avec le prologue, mais les narrateurs principaux, bah, Goliath, Claire, et je peux dire l'ange, l'ange qui deviendra archange, et quelques autres qui vont s'ajouter. Et pour ce qui est de trouver leur voix, alors ça m'a, en fait, il a fallu d'abord que j'arrive à les cerner en tant que personne. Et une fois que je les avais, je voyais à petit peu près comment ils étaient faits à l'intérieur. Ça s'est fait tout seul après pour écrire de leur point de vue. Alors pour cette première étape, ça ressemble furieusement de la psychanalyse, c'est-à-dire que je les mets vraiment dans un divan et ils se racontent à moi. C'est vraiment, j'ai ouvert un fichier et par exemple j'ai dit bah, Goliath, vas-y, parle-moi. Et il s'est raconté. Donc bon, entre la version qu'il a qui m'a raconté à moi et celle qui est du livre, il y a des décalages finalement. J'ai pas suivi son histoire à la lettre, mais ça m'a donné déjà un bel aperçu de sa personnalité, de ses forces, de ses peurs. C'est un hypochondriaque. Ça, c'était une évidence. Je me suis dit, il faut que ce soit un hypochondriaque. Pour Claire, ça a été plus compliqué parce que elle a été très difficile à cerner. J'ai fait pas mal de réécriture en fait sur nous. Alors, réécriture, c'est pas je termine jusqu'au bout puis je réécris, non, ce serait trop facile. C'est je commence à écrire puis je me dis ça va pas, donc je commence je me lance dans une réécriture puis une réécriture. Et c'est toujours Claire hein, qui m'a c'était elle avec Goliath. J'avais pas de problème, j'arrivais vraiment à le cerner. Mais alors, Claire, hein, je me suis dit incernable. Donc, il a fallu que je discute beaucoup avec elle. Et une fois que ça y est, tout d'un coup, j'ai réussi à mettre le doigt sur cette essence qui était si particulière pour elle, j'ai fait « Ok, ça y est, maintenant je comprends. Je vois l'existence de ton point de vue, et maintenant je peux m'incarner dans ta voix. » Donc une fois que ça s'est fait, que j'arrive vraiment à les ressentir intérieurement, vraiment après l'écrire, l'écriture, elle se fait vraiment toute seule. Ça, j'ai pas d'effort à faire.
Même en recherche de vocabulaire, alors il y a Goliath, il a un petit tic de langage
purin.
Il
dit pas de gros mots. Mais dans la première version, il était beaucoup plus argotique que ça. Là, vraiment, je me suis un peu calmée parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'il avait un langage de caniveau. Et je pense que vraiment, il avait vraiment... Je pense qu'avec ici et seulement ici, je me suis bien fait plaisir en matière aussi de langage un peu cru et de syntaxe un petit peu abîmée, malmenée. Du coup, je me suis dit, bon, là, je vais peut-être un peu me calmer, surtout que le lecteur doit découvrir tout un univers avec des codes et tout. Si je rajoute là-dessus un filtre avec un langage qui n'est pas facile à suivre, qui est très elliptique, donc j'ai essayé un petit peu je lui ai passé la bouche au savon. Mais ça n'empêche pas, quoi qu'il a quand même sa voix à lui. Mais j'avais puisé dans du vieil argot, c'est-à-dire l'argot des années 80. Et j'ai reçu une enclume temporelle sur la tête lorsque j'ai fait lire à des amis qui sont plus jeunes que moi et qui m'ont dit « Mais ça veut dire quoi, lesbéton ?» Oui, 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 mais le choc était total pour moi. Donc, c'est là que je me suis dit « Ok, je me sens vieillir. » Mais non, vraiment, voilà, la voix de Goliath, j'ai pas eu de mal à la trouver. Et en fait, c'était même assez jouissif parce que moi, je parle pas comme ça. Mais c'est bien d'avoir un personnage comme ça qui y va, quoi. Lui, il est assez brut de décoffrage. Donc, tout ce qu'il pense, il le dit tel qu'il le pense.
À mesure que l'on découvre donc ce supercontinent, c'est plus comme ça, et la société du « nous », on voit bien qu'elle bannit toute notion d'individualisme. Tout est érigé selon le bien commun. Et donc, on le voit dans le prologue, hein, toute pensée ou action individualiste est déviante.
C'est un gros mot, ça.
Oui.
Individu, c'est un gros mot.
Voilà, c'est ça. Tout, c'est déviant. J'avais écrit « c'est déviant ». Et donc, dans ce souci du bien commun, la fin justifie les moyens et peu importe... peu importe les moyens, et même s'ils sont violents ou, restons vagues, pas très orthodoxes, Donc moi j'y ai vu une allégorie. Enfin moi, je pense que tout le monde y voit une allégorie de la dictature et en fait la poursuite d'un idéal quoi qu'il en coûte. Pareil, comment vous l'avez construite cette société, sachant que j'ai remarqué que contrairement à beaucoup de dystopies, il n'y a pas de présence policière extrêmement présente. La violence, elle est beaucoup plus insidieuse. On n'est pas dans une société hyper violente, a priori, puisqu'on tout le monde veut faire le bien. Donc c'est très insidieux comme façon.
Alors déjà, petite confidence, c'est que je ne savais pas que c'était une dystopie.
Oui.
C'est Gallimard qui m'a dit que lorsqu'il a été question de communiquer autour du roman, il a dit « bon, on va parler de dystopie ». Je dis « dystopie ?» Puis après, je dis « ah ouais, quand même, ouais ». C'est après coup, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, non, c'est vrai, je coche un peu toutes les cases de ce qu'est une dystopie, mais ça me serait pas venu à l'esprit quand tout à l'heure la question c'était si je choisis le genre, ben pareil, j'écris une dystopie sans avoir à aucun moment le mot dystopie à l'esprit, quoi. Alors d'où c'est venu? Là aussi, c'est pareil, hein, c'est presque de la psychanalyse qu'il faut faire, parce que lorsqu'on me pose la question, je dis oui, au fait, pourquoi, d'où c'est sorti. Et en détricotant un petit peu, en fait, je suis retombée. Alors, tout à l'heure, je parlais de mes années collège quand j'écris ici et seulement ici. Ben là, c'était un petit peu plus tardif. C'est lorsque j'ai fait mes études à Nice. Et je pense que j'ai un petit peu souffert, justement, du côté très individualiste que j'ai trouvé à la faculté, avec ce côté, ces corridors où on se perd, on cherche son chemin, on demande, les personnes ne nous répondent pas. Dans les amphithéâtres, on est des chiffres anonymes pour les professeurs. Si on n'est pas là, ils s'en fichent complètement. Lorsqu'on a loupé à un moment un passage et qu'on regarde à côté pour voir ce qu'on a loupé, la personne qui met la main, pour pas qu'on puisse voir sur ses notes. Ouais, ça m'a fait un peu un petit choc. Je me suis dit, voilà, ok. Moi, intérieurement, ça dissonnait énormément. Et il y avait ces moments de grâce où, si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui allait me passer ses notes. Où une personne a dit « Ah oui, c'est par ici, l'amphithéâtre que tu cherches. » Et à ce moment-là, ça me faisait une sorte d'énorme chaleur dans le corps. Je me suis dit « Mais ça devrait toujours être comme ça. On devrait s'entraider les uns les autres. » Je me dis « C'est ça. » Et du coup, j'ai décidé de fonder un ordre de chevalerie. Voilà. Et j'ai recruté 2 membres sur Internet. Et l'Internet de l'époque, je peux vous assurer, MSN Messenger. Donc, j'ai pas eu beaucoup de succès, mais il y avait une sorte de code en fait de chevalerie où en fait je me suis dit, bah, allez, on s'engage moralement à aider quiconque on a besoin. Enfin, voilà, il y avait une sorte d'éthique, mais voilà, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Mais je pense que c'est resté là de façon souterraine. Et le jour où nous a surgi ce fameux matin devant mon cacao. Je pense que c'était ça, en fait. La réflexion avait continué de faire son petit chemin intérieurement. Et là, j'ai imaginé un monde qui serait tout à fait l'inverse de ce que moi, j'ai connu. Ce ne serait pas une société hyper individualiste, c'est une société qui est hyper solidaire. Et là, du coup, j'ai vu toutes les dérives de ce système-là aussi.
Et pour autant, il n'y a pas vraiment de tête. Le « nous » n'a pas de figure. On en parle, il y a les très hauts, il y a les fameux séraphins, mais qui pour le coup ressemble à une hydre en fait, à plusieurs têtes. Là, oui. c'est pareil.
C'est une incarnation plurielle
de la dictature, d'une société déviante.
En fait, c'est comme souvent, c'est le nous en lui-même n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est tout ce qui se construit autour. C'est quand ça devient un système, quand ça devient un dogme. C'est là que ça commence à dissonner. Mais voilà, le nous, effectivement, c'est une sorte de super conscience. Voilà. En fait, je m'étais beaucoup intéressée à la question, effectivement, de la conscience. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, qui a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Bon, alors, comme ça, a priori, rien à voir. Mais moi, c'était l'époque où j'étais vraiment en train d'imprégner de ça. Et moi, je trouvais, en fait, grosso modo, le concept, ça dit, c'est pas le cerveau qui produit une conscience, c'est la conscience qui produit des cerveaux, quoi. Et moi, ça m'avait fasciné. Je me suis dit, ah, mais s'il faut, il y a une sorte de conscience qui est vraiment effectivement supérieure. Qui est... Et en fait, on est tous les émanations plurielles d'une seule et même source. Bon, bah, c'est un peu comme ça que, après, mon côté romancière a peut-être pris le dessus et que je me suis dit, ah, comment faire un roman ? Donc, mais c'est un nous qui est absolu pour cette humanité, mais en fait, c'est un absolu qui est relatif.
Oui. Presque inatteignable dans la mesure où il y a une hiérarchie.
Oui, alors ça, c'est peut-être le côté aussi. Tous les instincts sont égaux. Je me suis bien fait plaisir parce que c'est un petit clin d'œil à la ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Donc c'est très implicite dans nous, mais clairement c'est ça. Entre la personne qui peut être traversée par une vision qui va lui permettre de créer un vaccin qui va sauver des millions de vies et celui qui va lâcher des chaussures. Bon, ben voilà, c'est tout le décalage qu'il peut y avoir entre les instincts.
On va justement, petit pont pour atteindre le personnage de l'ange qui devient archange, Modeste. Il n'a pas un prénom. Lui, finalement, il représente totalement le bras armé de cette société. On peut le dire, son instinct, c'est d'éliminer les anomalies qui nuisent au nous. Est-ce qu'on peut parler de lui un petit peu ? Comment il est construit ? Sa psychanalyse doit être intéressante.
Oh là, oui. Ah oui, alors là, il a fallu que je rentre dans une psyché qui est pas banale. Sachant que, alors, Modeste, déjà, qui a cette particularité, alors, j'en parle au masculin parce que c'est le personnage, hein, on va dire, mais en fait, dans le texte, je ne révèle jamais. C'est tout l'avantage de d'écrire à la première personne, parce que pour ça aussi, c'était très, très commode. C'est là que je me suis rendu compte que la langue française était très sexuée, parce que j'ai dû beaucoup slalomer. Mais en parlant à la première personne, je me suis dit, ben voilà, je vais faire en sorte qu'à aucun moment, il y ait une indication pour dire si c'est un garçon ou une fille. Ce qui est marrant, c'est de voir après l'interprétation des lecteurs, parce que pour certains, ils se sont fait une représentation très forte, et pour eux, ça ne faisait pas un pli. Hein. Soit c'était un garçon, soit c'était une fille. Mais donc du coup, ça c'était un exercice aussi qui était intéressant. Mais de me dire, bah, ça change déjà rien que ça, ça ne change rien en fait. Ne pas avoir cette information ne change rien à l'essence du personnage. Et au final, c'est pour ça que j'ai appelé ce personnage Modeste, qui est un prénom déjà unisexe. Et aussi bah, parce que ça reflète bien le fait qu'en fait, il a très très peu d'ego. Et vraiment, il est extrêmement connecté au nous. Il a une vision en fait très aimante du monde. Il aime tout le monde en fait, hein, même les personnes qu'il tue. Hein. Mais en tant que, on va dire, personnalité égotique, il y a presque personne en fait. Hein. C'est un personnage qui s'efface complètement, qui observe beaucoup, mais qui réfléchit le moins possible. Qui aime bien se laisser porter,
qui est assez dénué d'émotions et qui ne les sait pas les reconnaître non plus.
Oui, qui est aussi un petit peu effectivement à ce niveau-là, qui ressent parfois vaguement de la surprise, mais occasionnellement, mais pas de colère, pas de peur, hein, et qui du coup est déconcerté lorsque il surprend des émotions qu'il n'arrive pas à identifier chez les autres, mais ça l'intrigue. Il a une curiosité pour ça.
Oui, c'est ça, il est tellement au service du nous qu'il n'a aucune vie propre, quasiment.
Bah, je dirais que ça tient aussi beaucoup à l'éducation que ce personnage a reçue, puisque très rapidement, enfin très tôt, hein, il a été repéré et approché par la bureaucratie instinctive, et, qui a reçu une formation très spécifique. Donc je pense aussi qu'il a été assez vite coupé de son petit noyau familial. Donc, ça a pu contribuer, on va dire, à exacerber le phénomène. Mais je pense que, voilà, fondamentalement, c'était déjà un personnage qui avait très, très peu d'ego.
Eh bien, justement, en parlant des familles, on en parle beaucoup. Parce que ce qui est étonnant, c'est que tous ces personnages qui font partie du grand nous sont extrêmement... on peut tous les toucher. Il y a plein de détails. Même les personnages qui apparaissent beaucoup moins, vous leur avez donné un physique, un passé, des habits. Enfin, on se les visualise tous très, très bien. Ce qui est très drôle, parce que normalement, c'est un nous. Il y a pas mal d'informations sur les familles des personnages. Et alors, elles sont quasiment toutes dysfonctionnelles. Alors même que cette cellule, normalement, dans tout régime totalitaire, c'est le cœur. Est-ce qu'on peut considérer que les instincts sont une contrainte dans ce cadre et ça m'a amené à me dire, est-ce que dans le cadre de parents, les instincts sont... Enfin, où les enfants se passent avant l'instinct et c'est... Bon, rien n'est moins sûr.
Question intéressante. Alors effectivement, je m'étais un peu penchée sur cette société très particulière, sachant que les instincts ne se transmettent pas héréditairement. Donc, c'est pas parce que, par exemple, les parents de Goliath sont réparateurs. Bon, ben voilà, leur fils est né protecteur. Hein. Les instincts ne se transmettent pas. Donc, généralement, qu'est-ce qui va former les familles? C'est pas le sang, c'est les écoles. C'est plutôt, on va former tous les protecteurs ensemble, tous les réparateurs ensemble, les confidents ensemble. Ça fait plutôt des catégories d'instincts. Mais finalement, la famille ne passe qu'au second plan. Et à ce niveau-là, voilà, les liens du sang sont, on va dire, moins important que le nous. Encore une fois, c'est le nous qui prédomine. C'est ce lien-là qui est le plus important pour cette société. Mais du coup, voilà, je me suis bien fait plaisir en termes, effectivement, d'exploration familiale, de ce que ça pouvait permettre de voir avec Goliath, lui, qui a ses parents. Bon, il a plutôt une belle relation avec eux. Bon, c'est juste qu'ils gueulent tous très fort. Voilà, ils ne savent pas parler doucement, mais il y a beaucoup d'amour quand même dans son foyer. Claire, c'est plus compliqué du côté de sa famille, quoi. Et ça, la famille de Claire, hein, c'est un peu comme la famille de Lucifer dans la série. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une famille pas très, enfin, assez particulière, quoi.
Il y a un autre élément qui est hyper important. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, c'est la musique.
Ah, la musique, bah oui.
Alors, vous l'avez dit, Claire est comme tous les confidents ont toujours de la musique dans les oreilles pour pouvoir se protéger des autres. Et il y a aussi les dociles. Alors ça, il y a une scène très drôle, hein, quelqu'un dit « va chier un docile ».
Oui, c'est voilà. Drôle, ça dépend pour qui, mais...
Oui, certes.
Mais je comprends l'idée.
En tout cas, ça prête à rire. Même si, effectivement, on se rend compte à quel point donc, chaque ordre formulé peut être une catastrophe pour les dociles. Et il y a aussi ce personnage donc de Coco Rudy qui sort tout droit d'un boys band. Enfin, il est tout seul, mais ça devrait être la star d'un boys band. C'est l'ancêtre des Texas en fait. Et son instinct, donc c'est les instincts. Ça c'est un instinct qui est notamment de chanter, d'utiliser sa voix, même si ça doit conduire à une santé dégradée. Enfin, c'est l'instinct passe avant tout. Et il y a aussi Claire qui passe son temps à associer les gens à des instruments, comme pour les tenir à distance ou en tout cas pour les appréhender, leur donner la forme d'un violon, d'un alto, d'une flûte.
Elle fait des associations.
Voilà. Et donc, comment percevez-vous justement cette musique du nous? Parce que en fait, on n'a pas tellement d'idées du genre musical. Et après, je me demandais de mettre du coup de manière générale, en fait, quelle était la place de la musique dans votre vie ou dans votre façon de travailler, peut-être.
Et oui, là, alors, c'est ce qui était compliqué lorsque j'ai décidé que ce serait un monde de fantasy, c'est que du coup, je peux donner aucune indication musicale. Hein. Il y a mon conjoint qui, lui, est un passionné de musique et qui a une bibliothèque musicale absolument vertigineuse. Il m'a passé justement pendant toute la période où j'ai écrit Nous, il m'a passé toute une playlist spéciale années 80 que j'ai eu dans les oreilles, parce que alors, moi. Des lacunes, mais monumentales, hein, en matière de musique contemporaine, tout ce qui n'est pas musique classique. Mais du coup, je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas donner d'exemple, quoi. Les musiques qu'ils écoutent, je ne pouvais pas donner des noms de morceaux. Ce sont des références qui sont propres à notre monde, pas à leur monde à eux. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai un peu jonglé. Sachant qu'il y a... je pense deux grands mouvements musicaux. Il y a en fait Claire qui, de par sa maman, alors c'est pas réparatrice, c'est restauratrice d'instruments de musique. Donc sa maman, elle a plutôt une formation musicale classique. Alors que Claire, elle, ce qui l'intéresse, c'est la musique beaucoup plus moderne de son époque. Donc, je pense à ce petit fossé générationnel. Mais la figure maternelle est tellement prégnante que Claire ne peut pas s'empêcher. Elle a grandi dans l'atelier musical de sa maman. Donc, dès qu'elle voit des personnes, elle les associe à des instruments de musique. C'est vraiment presque automatique. D'où ça vient, la psychanalyse? Non, en fait, il n'y a pas à chercher loin. C'est juste que Il y avait l'école pour moi, et il y avait ma deuxième école, c'était le conservatoire de musique. Donc, moi, ça m'a paru toujours très naturel de pouvoir évoluer dans ces deux milieux-là, sachant que j'ai pratiquement pas pratiqué d'un instrument moi-même. J'étais vraiment... Mes parents ont essayé, mais je pense que j'étais pas très réceptive. Mais voilà, mes parents... ma maman était harpiste, mon papa clarinettiste, mon frère a poussé le piano jusqu'à un niveau très, très avancé, ma sœur a pratiqué la flûte traversière, il y avait moi. Voilà. Moi, en fait, j'avais essayé de me faire des cours de violon et je n'acceptais que si le professeur me préparait un chocolat chaud. Il y a une constante hein, avec les chocolats chauds, hein, on y revient toujours.
Oui, modeste bois du
chocolat chaud. Oui, bah, modeste bois du voilà. Donc, voilà, j'ai grandi dans un univers musical. Moi, ça fait partie de mon... tous mes souvenirs d'enfance sont imprégnés de musique classique. J'ai grandi avec les accords de harpe de ma maman qui se chauffait les doigts très souvent et qui mettait souvent des crèmes pour ses mains parce que ses mains s'abîmaient au contact des cordes de la harpe, les gammes de mon frère. Et donc, ça me paraissait complètement... Enfin, j'allais régulièrement au conservatoire. C'est là que ma famille passait la moitié de son temps. Donc, j'allais souvent. Donc, pour moi, c'était un environnement familier et même, j'ai envie de dire, assez réconfortant. Comme ça ne se passait pas très bien au collège, je sais que le conservatoire, c'était une sorte de univers d'apprentissage alternatif où je me sentais mieux, même si moi, je n'étais pas forcément très pratiquante. Mais il y avait une atmosphère qui... c'était l'apprentissage plaisir, quoi. Et donc voilà, bah forcément, là, dans cette histoire-là, moi, je me suis dit, allez, j'ai vraiment envie de me reconnecter un petit peu à ça, de faire des petits clins d'œil musicaux. Il y a même une anecdote à un moment donné de Claire qui compare les personnes à des hanches de clarinette. En fait, c'est mon papa qui m'a raconté comment se confectionner les hanches. On a juste une conversation comme ça, il me dit, ah, les hanches de clarinette, ça se fait comme ça. Et il faut savoir que voilà, sur 10 hanches, bah, 9 ne seront pas bonnes, il n'y en aura qu'une qui sera fonctionnelle. Bah, du coup, on discutait de ça. Bah, l'après-midi même, j'écrivais la scène avec Claire. Hein. Donc, voilà, j'avais un peu envie, bah, c'est une sorte de clin d'œil, je pense. Pour moi aussi, c'est comme si je mettais un peu de mon propre univers dans cet univers-là. Donc, il n'y a pas forcément un sens métaphysique à chercher. Hein. C'est juste, c'est, on va dire, la dimension autobiographique de la chose. Sachant que pour toute la dimension pop, avec cette figure de Coco Rudy, bon, il y a presque un petit côté Michael Jackson, hein, avec le côté vraiment... c'est une icône, vraiment, ce personnage-là. Et là, elle est vraiment presque sanctifiée, quoi. Et bon, bah, sachant que moi, voilà, j'étais complètement à côté de la plaque en matière de culture musicale moderne, c'est peut-être un petit peu le fait d'avoir été toujours dans le conservatoire de musique. Ben, j'avais pas les références musicales de mes confrères et consoeurs du collège, puis du lycée, puis de la faculté. Quoi, ça continue comme ça. Donc, ben, toujours aujourd'hui, hein, y a souvent des airs extrêmement célèbres. Moi, je suis, c'est quoi ? Voilà. Mais là, voilà, je me suis dit, ben, typiquement, le personnage de Claire, elle n'est pas comme moi. Elle est très éclectique dans ses goûts musicaux. Elle écoute de tout. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui. Et ce qui me fait penser à Avril, qui est sa camarade confidente, qui, elle, n'écoute que du métal à très haut volume, quitte à s'abîmer les oreilles et donc à perdre son instinct, ce qui serait une catastrophe.
Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire. Oui. Mais effectivement, c'est pas un petit détail, mais dans ce monde-là, si on n'exerce pas son instinct, on se condamne à mort. C'est biologique. Il faut vraiment pratiquer son instinct souvent. Et si on se met dans des conditions où l'instinct ne peut pas s'exercer, on vieillit prématurément.
Et voilà. Et donc là, la musique, c'est presque là aussi comme une drogue, puisqu'elle sait que c'est mal, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Je vais faire un petit coq à l'âne quand même, mais ça reviendra au début, quand on a commencé à évoquer vaguement un dieu. Les murmures, ce sont des petits indices, détails que Claire et Goliath vont repérer au début du roman, qui les conduisent vers ces jeunes disparus qui cherchent, sur lesquels ils enquêtent. Et ça a chatouillé quelque chose par là. Et en fait, je suis revenue au sens biblique des murmures, excuse-moi, je cherche mes bons mots pour pas dire n'importe quoi, qui est donc un péché de rébellion contre Dieu. Quand on murmure, quand Jésus
sur ces poissons, en fait, il y a là, dans la Bible, on dit qu'il y a un murmure et que donc on leur demande de ne pas murmurer parce que c'est aller contre Dieu.
Ah, j'ai complètement oublié.
Voilà. Et donc, bon, mais ça nous a, je savais pas si c'était juste une chatouille, si c'est moi qui ai été le chercher, mais en fait, ce qui m'a là aussi. Entre les tréaux, entre ça et puis peut-être Goliath aussi quand même. Oui. C'était peut-être revenir sur une dimension un petit peu presque mystique en fait de cette société aussi qui est un peu régie par une surpuissance.
Oui, oui, oui. Alors juste la petite parenthèse par rapport au murmure, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ainsi que ça on appelle lorsqu'il y a ces grands mouvements d'oiseaux dans le ciel et que tous prennent la même direction au même moment. Je crois que ça s'appelle un murmure.
Exactement.
Voilà, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc c'est pour ça que j'avais pris ce mot-là. Je crois que ça avait bien du sens dans ce contexte-là. Mais sinon, parenthèse refermée, je me suis un petit peu fait plaisir. J'ai bien puisé dans le lexique judéo. Très chrétien en fait aussi, hein, faut quand même le dire. Il y a la Bible, Ancien Testament, mais il y a aussi beaucoup de catholiques.
Oui, je dirais ancien, nouveau. Ancien, c'est le terme hébraïque pose. Et dans le nouveau, c'était plutôt les murmures face aux actions de Jésus, en fait. Mais, oui, oui, tout à fait.
Donc oui, non, effectivement, là, j'ai bien puisé dans... sachant que moi-même, ma première partie de scolarité au collège était un collège privé catholique, et on avait des cours de catéchisme. Donc j'ai vraiment aussi grandi avec le catéchisme. Et je me suis sentie un petit peu arnaquée, quelque part. C'est-à-dire que le jour où j'ai la curiosité de prendre une Bible et de lire par moi-même l'Ancien Testament, je me suis dit, tiens, il y a quand même un petit décalage entre ce qu'on nous enseignait au catéchisme et la version du texte, quoi. Je me suis dit, ouais, c'était quand même très édulcoré, hein, en catéchisme à l'école. C'était la version rose-bonbon, quoi, un peu bisounours. Et du coup, ben, je me suis dit, non, quand j'ai lu l'Ancien Testament, je me suis dit, waouh, mais c'est chaud. Je dis quand même, c'est un Dieu qui est quand même, il a ses petits chouchous déjà. Ça m'a beaucoup choqué, hein, un Dieu qui a ses préférences. Et puis le mythe de Babel, hein, qui a aussi, c'était une claque. Hein, le jour où j'ai lu vraiment le texte par rapport au mythe de Babel, je me suis dit ah oui, donc, on parle aussi d'un Dieu qui a peur des hommes en fait, qui se sent menacé par des hommes. Moi, ça m'avait fait un petit électrochoc. Ah, bon, j'ai lu une version de la Bible. Hein, je sais, il existe certainement tout un tas de traductions, mais je sais que la version que j'ai lue, c'était celle-ci. Et bon, c'est peut-être pour ça que dans la passe miroir, j'ai ressorti Babel aussi, parce que je pense que voilà, il y a des j'ai mes petites thématiques comme ça qui me parlent bien. Mais oui, là du coup, j'ai bien puisé dans le jargon. Ça me paraissait avoir du sens par rapport à cet univers là,
et qui va enfin, comme parce que moi j'y ai vu justement les bases de la rébellion. Du peuple, et c'est un terme qui a été aussi beaucoup utilisé au 19e siècle en France après la Révolution française, et donc toutes celles qui ont émaillé le murmure du peuple qui se transforme en énorme grondement jusqu'au sang. Donc il y a voilà, ce mot là en fait fait donne vraiment l'idée que la société vacille et que les très très hauts buildings sont peut-être en danger. Finalement, on n'a pas trop parlé de la relation qui lie Claire et Goliath. Tout ça me fait penser que peut-être nous pourrions revenir sur le choix des prénoms quand même.
Oui, oui.
Là aussi.
Tout à fait.
Donc peut-être.
Oui, alors oui, sachant que chaque fois je fais des parallèles avec la passe miroir, mais ça a du sens. C'est que pour la passe miroir, le choix des noms était absolument arbitraire, c'est-à-dire que je les ai choisis parce qu'ils sonnaient bien à l'oreille. Et c'est après coup qu'on m'a dit ce que signifient les prénoms, et que c'est ce qu'a fait dire à mon frère que j'avais un inconscient génial. Et il avait bien précisé inconscient. Parce qu'effectivement, ben, en fait, en détricotant, ben, Thorn, je ne savais pas, mais ça signifie épine en anglais. Ophélie, apparemment, ça signifie celle qui sauve. Bérénilde, son véritable prénom là-bas, c'était Bérénice, ça signifie celle qui apporte la victoire. Voilà, il y en a des tonnes. Enfin, apparemment, il y a quelqu'un qui a fait une étude, enfin une analyse du choix des prénoms de personnages dans la passe miroir, et qui en a déduit que j'étais un génie, alors que c'est à l'oreille que ça me plaisait, je vois. Mais j'ai décidé que pour nous, ce ne serait pas le cas, que ce serait des choix conscients. Donc, pour Goliath, Et là, effectivement, référence biblique, le duel entre David et Goliath, sauf que là, ben, Goliath se prend le mauvais côté du duel. C'est un peu, ben, Goliath, effectivement, il est en duel perpétuel. Il est toujours en compétition, il n'arrête pas de se comparer aux autres, il est toujours, il a un esprit hyper compétitif, sauf que, ben, il ne gagne pas tellement, quoi. C'est un peu, il est toujours en train de se prendre des pieds dans le tapis. Donc, ouais, il faisait un bon Goliath. Puis, bon, il a ce physique de colosse aussi, hein, qui fait que ça lui va plutôt bien. Pour Claire, ben, c'était bien d'avoir un prénom comme ça. Déjà, j'adore le prénom de Claire. Hein, c'est toujours un prénom qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais là, ça lui allait particulièrement bien parce que c'est un personnage qui est très obscur. Elle est extrêmement secrète. Donc là, c'est vraiment une sorte de contre-pied. Elle n'est pas transparente du tout. Donc, comme je disais pour le personnage de Modeste, voilà, je voulais un prénom qui non seulement ne soit pas trop genré, mais qui en plus, bah, ça allait bien avec ce côté d'avoir très très peu d'ego. Pour janvier, avril, alors là, faut pas chercher très loin. C'est juste que je trouvais ça très marrant qu'il y ait des prénoms avec des noms de mois. D'autant que bah, avril, elle a plutôt un caractère hivernal et janvier plutôt printanier. Donc là, je les ai complètement inversés. Mais et pour les prénoms de donc il y a Marthe qui a une disparue, mais d'autres disparus, d'autres élèves qui disparaissent, et tous les noms des disparus, ce sont des noms de martyrs bibliques. Donc oui, cette fois-ci, j'ai fait des choix conscients pour me dire, ouais, cette fois-ci, on pourra vraiment dire que je suis un génie. Mais j'essaie de réfléchir s'il y en a que j'ai des personnages que j'aurais oublié. Je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié personne.
Il y a Dalila aussi. Mais
ah oui.
Je sais pas si
non, là ça avait pas de sens particulier. Non, c'était à l'oreille. Je me suis autorisé celui-ci. Voilà, à l'oreille.
Je rajouterais que Goliath représente ceux qui prennent position contre le Dieu du ciel dans la Bible.
Oui, en plus,
je continue. Hein.
Moi, tout est lié.
Voilà, c'est ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, mais vraiment, tout est lié. Quel génie!
Non, en fait, j'avais pas pensé à ça, mais ça fait bien de le dire. Je suis
une bille en plus. Et donc oui, donc je voulais quand même parler de leur relation.
Oui.
Quand elle approche Goliath pour lui demander de mener l'enquête avec avec lui, enfin, lui demande pourquoi ils essaient d'établir un partenariat. Vous les avez cités comme ça dans l'introduction. Ils sont partenaires. Et en fait, elle lui répond. J'ai encore perdu ma ligne. Parce que je suis moi, parce que tu es toi. Et donc il va se tisser quand même une relation très particulière. Je crois qu'on peut le dire, une forme d'amour.
Mmh, complètement.
Mais qui est laborieux.
Bah, sinon, ça ne serait pas marrant. En fait, je pense que j'aime bien écrire des histoires d'amour qui ne sont pas romantiques. Voilà. Je pense que j'ai fait mes preuves en la matière. Mais ce n'est pas que Claire et Goliath, mais je veux dire... particulièrement eux, oui, mais de façon générale, je parle énormément d'amour, de relations d'amour dans cette histoire. Mais voilà, j'aime bien quand c'est pas trop... que ça s'enferme pas dans un schéma tel que nous, on pourrait le définir. Que c'est là où on mettrait, nous, l'étiquette couple. Et voilà un couple, ce que c'est et comment ça devrait être. Notamment, bah, par exemple, il y a ce côté Goliath qui, à un moment donné, se fait la réflexion que Claire ne lui appartient pas. Et pour moi, c'était important de voir avec eux cette forme d'amour qui est presque désintéressé, quoi. Voilà.
Et je pense que nous allons... Je vais surtout vous laisser un temps de parole. Donc, je vais m'arrêter là. J'avais
pas... Il y a les petites horloges, c'est vrai.
J'ai pas fini mes questions.
Oh, désolé.
On aura d'autres occasions, ouais, peut-être, d'en parler. Et puis, peut-être que vous allez les poser aussi. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie beaucoup. On a appris plein de choses. Et puis,
ça fait un plaisir.
On va vous les donner... la possibilité, voilà, de poser vos questions.
Merci.